Cette semaine, Interception, le magazine de reportage de France Inter, cède sa place à une émission spéciale Regards croisés, une coproduction des MFP, les médias francophones publics. Les reporters des rédactions de Radio-Canada, de la RTS, la radio-télévision suisse, de la RTBF, la radio-télévision belge francophone, de RFI, Radio France Internationale et de Radio France ont travaillé sur une thématique commune, les pénuries. Pour un 25 décembre, ce n'est pas très joyeux, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous, car si nous allons faire le constat de ces manques, nous allons surtout explorer les solutions mises en place pour y faire face dans ces différents pays. Comment éviter les sécheresses qui ont frappé l'Europe l'été dernier? Comment produire de l'électricité pour éviter les coupures de courant? Comment convaincre les salariés de venir travailler dans son entreprise plutôt que pour la concurrence? Comment faire face à la pénurie de certains produits du quotidien? Les réponses dans ces 5 reportages que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui.
Regards croisés, les médias francophones publics sur France Inter.
Et on commence en France, touchée cet été par une sécheresse inédite. En moins de 50 ans, la consommation d'eau par jour et par habitant est passée de 106 à 150 litres. Nos usages quotidiens et les effets dramatiques du réchauffement climatique font craindre aux experts que ces épisodes ne soient à l'avenir encore plus fréquents. Pour éviter ces pénuries d'eau, des solutions existent mais sont encore peu exploitées en France, comme ont pu le constater Maria Melkurdi et Laurent Macchietti, dont le reportage commence en Bretagne, dans le petit village de Kerloigen.
Ah, bonjour, bonjour.
Nous sommes sur l'exploitation de légumes bio d'Yvon Cabioche, une ferme d'une cinquantaine d'hectares. Les salariés lavent des betteraves et des radis. Ils les disposent ensuite dans des cagettes avant de charger les camions de livraison.
Donc c'est ici qu'on conditionne les légumes. Et comme il faut qu'ils soient propres pour la clientèle, on consomme pas mal d'eau l'hiver. Mais comme elle nous sert l'été suivant, elle n'est pas perdue.
Une eau indispensable, en l'occurrence, l'eau de pluie précieusement conservée dans une cuve pour être réutilisée. L'été prochain, il le sait, il faudra irriguer. Cette année, l'eau a manqué. Bilan de la récolte en baisse.
Oh ben, on aura une perte à peu près d'un quart cette année. D'un quart. Et en moyenne, sur plusieurs cultures.
Notamment les poireaux ou encore les choux.
C'est des cultures à cycle long qui mettent de 3 mois, 6 mois ou même 7, 8 mois. Elles, malgré que la pluie est arrivée bien plus tard, la plante n'ayant pas réussi à se développer suffisamment avant l'automne, elle n'arrivera pas à rattraper son retard. Il y a certains plants qui n'ont pas résisté, quoi. Ils n'ont pas réussi à s'enraciner. Il y a des parcelles où il y a la moitié qui a cramé.
Donc aujourd'hui encore, il y a des conséquences de cette sécheresse sur votre production de légumes en fait?
Ah, c'est surtout cet hiver qu'on va payer les conséquences.
Et sur certaines parcelles, aucun légume n'a poussé. Yvon Cabioche n'a pas pu tout irriguer en raison des arrêtés préfectoraux. Aujourd'hui, l'alerte sécheresse est loin, la pluie tombe à nouveau. À Comana, à une trentaine de kilomètres de Morlaix, Nicolas Forêt regarde le niveau d'un ruisseau. Il est hydrologue pour l'association Eau et Rivières de Bretagne. Il nous montre un dispositif de calcul du débit des cours d'eau. Une sonde mesure en continu la pression hydrique et une échelle permet d'en mesurer la hauteur. Il existe près de 3000 sites comme celui-là en France.
Alors le débit aujourd'hui, il est relativement faible pour la date à laquelle nous sommes. Donc il est très bas. Ça montre que pour l'instant, les sols ne sont pas encore complètement pleins d'eau et que les pluies ne répondent pas encore autant que les gens l'espéraient.
Le ruisseau nous conduit au lac du Drennec. Ce lac alimente en eau potable toute l'agglomération de Brest. En arrivant, on voit que le niveau a baissé. Des plantes aquatiques, habituellement cachées par les eaux, apparaissent devant nos yeux.
Ce lac, c'est un lac qui a un gros volume, ça fait plus de 8,5 millions de mètres cubes. Et cette année, le niveau a baissé au point que les gestionnaires étaient inquiets. Le niveau s'est stabilisé, il remonte très très lentement. Et c'est illustratif un petit peu de l'année qu'on a vécue en France. Même si ici, nous sommes dans un des endroits, entre guillemets, les mieux arrosés de France.
Avec le dérèglement climatique, l'étiage, c'est-à-dire la baisse des cours d'eau, va s'accélérer, prévient Nicolas Forêt.
Il faut qu'on apprenne à vivre avec une eau plus rare, parce qu'on est dans un contexte d'évolution de nos besoins, des températures. Ici, dans l'ouest Bretagne, les traces du changement climatique existent, mais elles sont faibles. Quand on arrive en Ille-et-Vilaine, on a des choses qui commencent à se voir. Alors je ne parle pas du sud-ouest où c'est tout vu. Quand vous savez qu'une rivière comme le Tarn, c'est pas une petite rivière, mais a perdu un quart de son écoulement annuel en 50 ans, un quart de son écoulement annuel, ça vous fait réfléchir.
Donc là, on arrive à Murviel-les-Montpellier. C'est un petit peu un paysage qui ressemble à la Toscane. C'est très vert, très vallonné. On a des oliviers à notre gauche. À notre droite, on a une petite parcelle de luzerne entourée d'arbres. Et on va rencontrer Jean-Claude Mailleul, qui est aujourd'hui viticulteur. Il est à la retraite. Il était auparavant chercheur en hydrologie. Il travaillait sur les problématiques de l'eau et notamment l'utilisation des eaux usées en agriculture. Bonjour, bonjour Jean-Claude Mailleul.
Bonjour.
Pour irriguer ses vignes et ses fruits, il récupère les eaux usées qui proviennent des toilettes, des éviers, des lave-vaisselles des habitants du village et qui sont traitées sur la station d'épuration d'à côté. Alors, peut-on manger ces fruits sans risque ?
J'ai goûté les abricots, ben je peux vous dire qu'ils étaient bons. L'approche est encore vivant.
Voilà. J'ai planté cet amandier là. Il était deux fois moins ou trois fois moins développé quand je l'ai planté au mois de février dernier. Regardez un peu la taille qu'il a pris. Tout simplement, parce que bon, dû à la fois aux irrigations, mais à l'apport de fertilisants dans les eaux de la station d'épuration. Ouais, regardez un peu cet arbre comme il est chargé en olive, pareil. Alors voilà, ça c'est pareil, donc ça c'est les abricotiers, vous voyez, qui ont été plantés il y a deux ans. Alors regardez la taille, quand je les ai plantés, ils étaient encore plus petits que celui qui est à l'extrémité de la ligne, vous voyez. Ouais. Regardez comme il est devenu, en quoi en deux mois, en quatre mois.
Donc là il fait combien en hauteur là? Il est au moins cinq fois plus grand là.
Ah ben voilà, ouais, pouf,
incroyable. Moi il n'a pas été fertilisé, quasiment pas. C'est surtout les eaux usées qui sont responsables de la rapidité avec laquelle il s'est mis à croître.
Car les eaux usées sont riches en azote et en phosphore. Moins de 1% de celles-ci sont réutilisées en France, contre 15% chez nos voisins espagnols et plus de 80% en Israël. Changement de décor, les bureaux d'affaires de Veolia situés à Aubervilliers en région parisienne.
Bienvenue chez Veolia.
Un immense Merci. Immeuble moderne en verre.
Bonjour.
Bonjour. Le long couloir blanc. Je vais à la rencontre de Pierre Ribot, directeur général de Veolia Hauts-France. Il va nous expliquer les projets plus ou moins aboutis de Veolia en termes de réutilisation des eaux usées.
Le recyclage des eaux usées traitées fait partie du cocktail de solutions à mettre en œuvre. Et on peut aller encore beaucoup plus loin, même si la réglementation ne le permet pas en France, mais on peut aller jusqu'à la production d'eau destinée à la consommation humaine. C'est ce qui se passe dans certains pays où là, il y a un manque chronique et extrême d'eau. Je pense à la Namibie, mais je pense aussi à Singapour, où en fait, l'eau qui est bue là-bas et de l'eau usée qui est complètement recyclée pour faire de l'eau potable. Il y a des freins qui sont ce qu'ils sont, en fait, mais les technologies existent, les savoir-faire sont là, et donc je ne doute pas qu'on soit absolument capable d'y arriver. On y arrive à Singapour, on y arrive à Namibie, on y arrive à d'autres endroits.
Reste aussi peut-être à lever un frein social. Sommes-nous prêts en France à consommer nos eaux usées, même parfaitement traitées ?
Comme dans de nombreux pays d'Europe, en Suisse, on craint de manquer d'électricité, car une partie du courant helvète est importée, notamment de France et d'Allemagne. Le pays cherche donc à développer sa production locale, en misant sur l'énergie hydraulique. Surnommé le château d'eau d'Europe, la Suisse compte en effet plus de 2000 centrales le long des cours d'eau ou au cœur des Alpes. Un nombre qui devrait encore augmenter, puisque la Confédération helvétique veut développer de nouveaux barrages dans ces montagnes. Valentin Emery de la RTS, la radio-télévision suisse, nous emmène au cœur de ces installations hydrauliques.
Ah, je vous laisse prendre un casque pour entrer. Vous pouvez régler derrière la grosseur de la tête.
Jonathan Fauriel, vous êtes ingénieur, vous êtes responsable de l'unité génie civil et environnement chez Alpiq. Vous nous emmenez dans les entrailles de la Terre. On est où ici ?
À côté de Ride, en pleine du Rhône, on entre dans une des trois usines qui turbinent l'eau de la Grande Exance. C'est une usine 100% enterrée. Depuis l'extérieur, on voit rien du tout.
Alors là, on vient d'entrer dans une salle assez incroyable, avec une hauteur de plafond de quoi, plusieurs dizaines de mètres.
Oui, et encore, on ne voit pas tout. Donc là, on voit la partie avec le bout des alternateurs. Ensuite, il y a tout ce qui est turbine et puis canal de fuite qu'on ne voit pas.
Le barrage de la Grande Dixence, c'est un barrage mythique en Suisse. Il bat plusieurs records.
Alors, c'est un record du monde pour le barrage Poix, avec ses 285 mètres de hauteur. C'est dans l'ordre de grandeur de la hauteur de la Tour Eiffel. En termes de volume de béton aussi, on a à peu près 3 millions de mètres cubes de béton, ce qui en fait effectivement un ouvrage exceptionnel. Comme c'est un espace très grand, le téléphone, ça fait des trucs énormes pour que tout le monde puisse entendre au besoin. C'est tout. Donc ça fait un peu peur, mais c'est normal. En fait. Je voulais vous emmener ici parce qu'on a, avec cette belle et grande photo panoramique, toute l'étendue de l'aménagement de Grande Dixence. Donc on a plusieurs dizaines de kilomètres de galeries qui vont chercher l'eau au pied des glaciers et dans les vallées alpines.
Dans tout ce réseau de barrages, de conduites, il y a un nouveau projet, c'est celui du Gornerli, du côté de Zermatt. Parlez-nous de ce projet.
Oui, ça permet d'utiliser l'eau qu'on utilise déjà pour Grande Dixence, mais de façon plus efficace, en la stockant et aussi en évitant les pertes d'eau qu'on a déjà aujourd'hui.
Nous arrivons à Zermatt, gare terminus.
Alors on a pris un peu de hauteur, hein. Nous sommes dans la célèbre station de ski de Zermatt, à quand même 50 km à vol d'oiseau de la centrale de Biedron, mais c'est ici, au-dessus de Zermatt, que se trouve le glacier du Gorner. C'est donc là que doit se construire le nouveau barrage, un projet qui réjouit les habitants de la commune, à commencer par sa présidente, Romy Binerhauser. Bonjour.
Bonjour monsieur Emery, bienvenue à Zermatt.
Merci beaucoup. Si je comprends bien, là il y a le Cervin. Le barrage, il est un peu plus à gauche, hein, c'est ça?
Et vous avez bien fait votre étude, oui. Ici, vous voyez le Cervin et à gauche, mais pas visible d'ici, ça viendra le barrage du Gorner là. Ça fait presque 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Elle n'est pas seulement un potentiel énergétique, elle est, et ça c'est important pour notre village, une protection contre les crues. Et en plus, l'été passé était assez chaud, il avait manqué de l'eau dans quelques endroits. Ça, c'est aussi un potentiel que vous stockez l'eau potable avec.
Si à Zermatt, officiellement, on ne parle pas encore d'argent, la manne financière des barrages suscite les convoitises des collectivités locales. Dans les régions alpines, le soutien à l'énergie hydraulique est donc massif, mais il l'est aussi au niveau national. Pour s'en rendre compte, direction le Parlement fédéral.
La séance est ouverte.
Alors nous sommes à côté de la salle du Conseil national, un hémicycle où la pénurie d'énergie est un thème de débat depuis plusieurs mois. On parle notamment de construire de nouveaux barrages ou de surélever des ouvrages existants. Tout est parti en fait d'une table ronde qui a réuni les entreprises électriques, les défenseurs de l'environnement, la Confédération, les cantons, des acteurs qui ont des objectifs souvent opposés et pourtant qui se sont mis d'accord pour identifier les projets les plus prometteurs. 15 projets dont le Gornerli à Zermatt. Christophe Climat, vous êtes conseiller national écologiste. Jusque dans vos rangs, on soutient cet accord de la table ronde. Pourquoi ?
Je pense qu'on doit bien accepter aujourd'hui qu'on a besoin effectivement de produire davantage d'énergie renouvelable dans un temps relativement court. Donc moi, je peux tout à fait vivre avec ces 15 projets qui doivent continuer à être étudiés. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur le potentiel des économies d'énergie, de la sobriété, parce que finalement, les kilowattheures qu'on économise, ça veut dire qu'on ne doit pas se poser la question finalement, est-ce qu'on sacrifie de la biodiversité pour produire de l'énergie renouvelable.
Malgré ce compromis helvétique, le chemin est encore long avant de voir de nouvelles constructions. Alors pour ces prochains hivers, la Suisse devra faire avec l'existant. Mais bonne nouvelle, après 14 ans de travaux, la centrale du Nant de Drance a été inaugurée il y a quelques mois. Une installation hors norme, vraiment au cœur de la montagne. Pour la découvrir, on retourne dans les Alpes valaisannes. Bonjour.
Bonjour, bienvenue pour cette visite de Nant de Drance. Mon nom est Robert Gleit, je suis délégué du conseil d'administration et aujourd'hui je vous servirai de guide dans cette installation.
Parfait, alors on s'équipe.
Donc le badge, le gilet et puis le casque. Alors le casque dans le bus, il n'y en a pas besoin, mais quand on sort, il faut le mettre. Le portail principal s'ouvre et puis entre ici et la caverne principale, on a pratiquement 5,5 km de trajet à faire. Donc ce tunnel qui a une pente moyenne de 12%, nous fait monter de 1200 mètres à 1700 mètres, qui est l'altitude de la caverne principale. Voilà.
C'est vraiment immense comme galerie.
Ouais, alors la caverne principale des machines, elle fait 200 mètres de long, 50 de haut, 30 de large. On pourrait mettre deux fois le palais fédéral suisse. C'est aussi long que deux terrains de football.
Alors qu'on comprenne bien ici, on est entre deux lacs. C'est comme ça que fonctionne le pompage turbinage.
Oui, c'est-à-dire qu'on a une réserve d'eau en bas et quand on pompe, ben, on amène l'eau dans le lac supérieur. On garde cette eau aussi longtemps qu'il le faut et on returbine pendant les périodes de pointe. Il faut voir ça comme une grande batterie. Donc là, on va reprendre le véhicule et puis on va monter dans le haut de l'installation. Donc on va aller voir le barrage du Vieux Émosson qui est situé à 2200 mètres d'altitude.
Bon, bien, femme. Voilà, on a posé le véhicule et on fait les dizaines de derniers mètres à pied au cœur de la montagne. Voilà, on est en haut.
Ouais, 60 mètres plus haut. Donc là, on va...
C'est la porte du paradis.
Ouais, on va sortir. On va voir le lac.
Changement de décor total. Hein. On est au milieu de la montagne, dans une tempête de vent et de neige. Ça vous inspire quoi de voir ce que l'homme a pu faire ici ?
Moi, je suis très fier de faire partie de ce projet, mais ça me rappelle aussi tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour générer de l'électricité. Et donc, être ici, dans cet environnement, je me dis, les hommes peuvent faire des grandes choses et de belles choses.
Ces nouvelles grandes installations doivent permettre d'augmenter de 10% la production d'hydroélectricité d'ici 2050. En développant en parallèle le solaire, la Suisse veut à terme renoncer au nucléaire. Dans quelques instants, nous partons au Canada pour parler pénurie de main-d'œuvre. Vous verrez qu'on ne manque pas d'idées chez nos cousins québécois pour attirer les salariés. Mais juste avant, on écoute ce titre de Guts, Brenda Navarrete et David Walters, un hommage à la culture afro-cubaine et créole, porqué ou café ça.
Sabes me gustar Angu kasuri Angu ni jol mare Dimo esa sa yesa Usa mi casa es tuya Mi maka santi dangea Ele udu Ele ue Use loa Epidi fea Nu sab se lo L'amu ki la Oh, mi niña, tú sabes me gustar. Uchi o cafesa, usé al cinema. Usa una emesa, tú sabes me gustar.
Tiene de aquello que gusta, mi niño, yo quiero más. Cuando me mira siento cariño, yo quiero más. No lo compliques, que esto es sencillo. Yo quiero más. Vamos a meternos en el amor en el bolsillo. Yo quiero más.
Y caminar solo los dos.
Sé que te asusta a mí, me gusta, pierdo el control.
En el amor quiero seguir.
Deja que te muestre Camilo, me lo podrás permitir.
Ay, buchillo cafezal.
Tú sabes ya si se paga, aún fue la pena en el agua.
Es que yo tengo una cosa que a ti te gusta mucho.
Niña, sáme el SM. Oh.
llegas jamás, jamás, jamás la llevo.
Dámela, dámelo, quiero más, quieres todo. A ti te conviene.
Pasa puchi, puki, sa niña, café, moi, pet foie.
Quiero todo, quiero todo, quiero más. Puchi, puchi, pourquoi?
L'amour pas la joie, nous fait y poser. Nous savons, c'est love, c'est l'amour qui l'a. Dime, puchi.
Dime, pourquoi?
Dime, puchi.
Dime, pourquoi?
Puchi, puki, sa, puchi. Puki, sa, puchi. Puki, sa, puchi.
Regard croisé. Sur France Inter.
Au Canada, il existe une importante pénurie de main-d'œuvre. Elle touche plus particulièrement des secteurs comme celui des nouvelles technologies. Alors pour séduire les salariés, les entreprises rivalisent d'imagination. C'est le cas de cette société qui crée des logiciels de retouche photographique. Comme elle ne parvient pas à concurrencer les salaires mirobolants offerts par les géants du secteur, elle se distingue autrement. Elle a acheté un chalet au bord d'un lac, à plus de 2 heures de Montréal, pour que ses employés viennent y travailler ou y passer du temps les fins de semaine. Un reportage d'Alexis Gacon en Mauricie, au Québec.
Au bout du chemin de gravel, un grand lac, et au bord du lac, un immense chalet. Marion, la PDG de Mediaclip, nous fait faire le tour du propriétaire.
Donc ici, on a 3 chambres. On voit le lac. On a essayé d'avoir le plus de lumière possible pour que ce soit agréable. Oh, c'est calme, 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 c'est un silence.
Et ceux qui profitent de la vue, ce sont les employés de l'entreprise.
Geneviève, Nicole, André.
Bienvenue au chalet.
En fait, le concept, les gens viennent travailler ici, mais ils ont aussi un week-end. Ils viennent avec leur famille puis leurs amis.
Mediaclip compte une 30aine d'employés. De l'aveu de Marion, elle ne peut rivaliser avec les gros salaires des géants de l'industrie, alors il fallait trouver un autre moyen de se démarquer. C'est comme ça que l'idée du chalet a germé dans son esprit.
Ben, en fait, c'est le fait que les gens travaillaient de la maison, puis le fait aussi que l'accès à la propriété pour les jeunes, tu sais, moi, mes développeurs sont en 20aine, début de 30aine, l'accès à la propriété était rendu impossible. Donc, c'est ça. Non, l'idée a fait du chemin en me disant que c'est ça. Si j'avais un chalet où est-ce que les gens pourraient aller, à ce moment-là, ben, ils pourraient sortir de leur environnement, de leur quotidien, puis ben, ça améliorait aussi le bien-être.
Baptiste est français. Il travaille ici depuis 1 an et demi comme développeur. En tout, il a déjà passé plus d'une 30aine de jours au chalet. Pendant sa pause déjeuner, il enfourche un des 2 vélos de montagne électrique mis à disposition pour aller se promener dans les alentours.
Il y a le parc de la Mauricie juste à côté, avec des sentiers de vélo, donc faire une petite balade à vélo. Plus c'est un vélo assistance électrique, donc ça avance tout seul.
Pour d'autres, comme André et Nicole, c'est plutôt le lac qui les attire. Quand ils ont du temps, ils empruntent le pédalo, la planche à pagaie ou le kayak.
Hein ? As-tu essayé le paddleboard ?
Oui.
Oui, j'ai fait ça pour la première fois cet été.
Je l'ai essayé, puis j'ai perdu mon téléphone.
Et le lac, ce n'est pas que pour les temps morts. Parfois, il se transforme même en salle de réunion.
On discute, puis on jette à l'eau, on se baigne, on revient.
Il y a des idées qui émergent au milieu du lac.
Ouais, mais ça fait une discussion plus... Ben ça, c'est plus casual. Tu sais, le brainstorm, ça te prend un environnement où est-ce que t'as pas t'as des paramètres inhabituels un peu.
Et quand ils reviennent au chalet, parfois ils travaillent, mais d'autres fois, ils prolongent la pause bien au chaud.
Fait que ouais, ça, c'est un sauna. En fait, c'est infrarouge, donc ça vient chaud.
Ah oui.
Donc, parce que quand tu viens dehors... Ben, c'est cool, après ça, tu vas là-dedans, t'es chaud, ça reste réconfortant.
Difficile d'avoir l'impression que l'on se trouve dans les locaux d'une entreprise. Et c'est ce qui plaît à Baptiste et Nicole, même si le chalet est à 2 heures de chez eux.
Travailler depuis ma chambre, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Venir au chalet, ça permet aussi déjà d'avoir un cadre de travail beaucoup plus agréable.
Est-ce que ça joue, toi, pour toi, sur le fait de te voir à long terme dans l'entreprise?
Oui, c'est clairement quelque chose qui jouerais dans la balance dans une décision de rester ou partir.
Ça permet de un lâcher prise, même si tu travailles. Maintenant, avec le télétravail à la maison, ben, tu sais, je pense quand même à mon lavage, à faire des trucs que j'ai pas fait et que je travaille, mais que je vois. Mais ici, t'as rien à faire. Mais tu te sens à la maison.
Au départ, l'idée pour Marion, c'était de proposer une expérience différente de celle du bureau à Montréal. Mais maintenant, le cœur de Mediaclip s'est déplacé ici. Les employés ne veulent plus retourner au bureau, soit ils sont en télétravail chez eux, soit ils sont au chalet.
Même sur la table, il y avait l'option de dire on n'a plus de bureau. Donc, on est en réflexion en ce moment.
On recrée un bureau à la nature, finalement.
Exactement. Puis dans un environnement qui est beaucoup plus bucolique, donc puis les gens passent plus de temps ensemble. Ce qui fait que les liens se créent beaucoup plus fort.
Quand on signe dans une entreprise, on ne prévoit pas vraiment d'être en coloc avec nos collègues non plus.
Oui, il faut être ouvert. Et puis, comme dans une colocation, il faut parfois respecter un petit peu la bulle des autres, de souper ensemble, le soir, de regarder la télé ou de jouer à des jeux de société ensemble. Ça crée beaucoup plus de liens que si c'est juste, on se voit au bureau de 8h à 17h et puis après chacun rentre chez soi.
Se réveiller et tomber sur son collègue en robe de chambre, peu d'employés le vivent en temps normal. Geneviève s'occupe des ressources humaines chez Mediaclip et pour elle, tout est une question de confiance envers son équipe.
C'est pas nécessairement tout le monde que ça peut intéresser. Puis ce qui est intéressant avec le chalet, c'est que si, dans le fond, tu as l'opportunité la semaine que ça te tente de voir des collègues, de sortir un peu de ton quotidien, de ton appartement à Montréal ou peu importe, puis d'aller voir des gens, il y a ce volet-là de socialisation qui est possible. Mm-hmm. Donc ça vient vraiment chercher une clientèle un peu plus, je veux dire, individuelle ou peut-être quelqu'un de célibataire ou du moins qui n'a pas d'attache avec des enfants.
On quitte quelques instants le chalet et son feu de foyer pour aller prendre un café à Montréal avec Geneviève Provencher, qui dirige myflow.ca.
Avec la pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on voit, c'est que les entreprises n'ont pas le choix de se creuser un peu plus la tête puis d'essayer de comprendre un peu mieux ce que les gens ont besoin dans leurs entreprises.
Quand elle vivait aux États-Unis, elle avait découvert un site qui recensait les entreprises qui proposent davantage de flexibilité aux employés. Alors elle s'est dit, au Québec, ça peut fonctionner aussi. La pandémie et la pénurie lui ont donné raison.
Puis avec une des entreprises avec laquelle on a travaillé, qu'on s'est rendu compte, c'est que les employés, ce qu'ils voulaient, là, le plus gros manque en ce moment dans leur vie, c'était d'avoir de l'aide pour les repas. Donc, toute la logistique des repas le soir, c'était très compliqué. Les entreprises font réfléchir leurs employés et réfléchissent eux-mêmes à ce qu'ils pourraient offrir. Puis c'est là quand on demande aussi, généralement, on a des bonnes réponses, hein, puis on a le besoin assez clair. Tu sais, si parmi nos avantages sociaux, nous, ce qu'on offre à nos employés, c'est un montant X par mois pour avoir des boîtes repas. Ça peut être une ou deux par semaine. C'est sûr que ça facilite les soirs de semaine. Hein.
Et pour qu'une entreprise gagne au change, elle doit bien accompagner ces changements.
Si on dit juste, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, je veux dire, à moins d'avoir une équipe ultra mature et ou être un espèce de leader gourou, là, ça ne fonctionne pas généralement.
De retour au chalet, la vie en communauté continue de s'organiser. Pour l'instant, les enfants sont acceptés les fins de semaine ici, mais l'équipe évoque la possibilité de les faire venir la semaine avec un employé qui s'en occuperait à tour de rôle.
Mettons qu'il y en a plusieurs, ben, mettons une journée, c'est comme un qui est comme plus responsable d'enfants, là, tu vois, comme...
Vous allez juste chacun votre tour de rôle, vous allez vous occuper des enfants.
Une option de plus pour Marion afin de retenir ses employés.
Mais il est certain que nous, par exemple, les développeurs, le temps qu'ils commencent à contribuer, ça peut prendre 6-12 mois parfois. Donc, c'est certain que pour nous, les garder, c'est beaucoup plus rentable que de changer. Puis surtout maintenant, c'est les firmes de recrutement qui coûtent une fortune. Le fait d'avoir un chalet qui peut venir avec leur famille, puis de se créer des souvenirs ici, bien... Mon hypothèse, en fait, c'est qu'éventuellement, ça peut peser peut-être dans la balance. Il y a eu des demandes en mariage aussi. Il y a eu, déjà, ils commencent à avoir un peu d'histoire.
J'ai sorti les assiettes.
En général, les développeurs restent moins de 5 ans dans la même entreprise. Alors Marion sait qu'ils ne sont pas mariés à Mediaclip. Mais elle espère qu'avec le chalet, elle arrivera à les garder un peu plus longtemps.
Dans la région belge francophone de Wallonie, en 2022, près de 5000 postes étaient à pourvoir dans les métiers de la cuisine. Ce qu'on appelle là-bas le secteur horeca, comprenait hôtels, restaurants, cafés, ne trouve plus de personnel qualifié. Un phénomène qui, comme en France, s'est accéléré depuis le Covid, constatant à cette époque que leurs horaires étaient pénibles et les salaires trop bas, beaucoup ont rendu leur tablier pour changer de métier. Aujourd'hui, les restaurants doivent s'adapter, comme ont pu le constater Julien Conti, Julien Bader et Éric Dagonier, qui signent ce reportage de la RTBF, Panique en cuisine.
Alors, ça c'est mes affaires à moi.
Cette ambiance-là, pour Robert, c'est fini.
À 24 ans, il arrête l'hôtellerie.
J'ai mes souris, j'ai mes œufs.
Des saumons coupés.
J'en avais encore un derrière.
Oui, je sais, c'est parce que j'avais le propre.
En tant que saucier, j'ai été travailler dans un restaurant étoilé à Monaco. C'était un rêve, c'était... On vivait cuisine, on respirait cuisine. Sur mon dernier travail, sur papier, j'étais premier commis et je faisais le travail, je dirais, de deux personnes. On n'a plus de temps pour soi, simplement. On n'a plus rien. Notre vie, c'est la cuisine, c'est le restaurant. Après Covid, ça m'a pris un an pour décider de quitter l'hôtellerie. Oui.
À 5 bis, un pavé de bœuf saignant, un burger saignant en attente.
Chef.
Des profils comme Robert, pourtant, Alix en cherche désespérément. Elle est chef dans un restaurant bistronomique. Elle dirige depuis 4 ans les cuisines d'un hôtel aux portes des Ardennes belges.
Je n'ai jamais trouvé de seconde de cuisine. Je suis toute seule.
Vous travaillez combien d'heures par semaine, vous ?
Passé 70, 80. Je calcule plus. Il vaut mieux pas, hein. Sinon on pleurait. J'ai 3 enfants. Psychologiquement, par moment, oui, c'est très dur de ne pas craquer.
Où est-ce que tu repasses ? C'est OK, toi. Ça passe avec l'Américain et le poste.
Dans l'hôtel où elle travaille, Alix est très proche de Loïc Jamard, sa directrice.
Tu prendrais de l'eau pour le repas ?
Dans le restaurant, du coup, bah, c'est presque tous les jours où je me retrouve avec l'équipe à aller servir en salle. C'est très compliqué de trouver du personnel qui soit qualifié. Quand je vais voir des écoles, il y a des sections entières qui ferment parce qu'il y a vraiment plus d'intérêt pour le secteur. Je ne me l'explique pas, le manque de personnel à ce point-là. Honnêtement, on a presque l'impression qu'il y a une partie de la population qui a disparu.
Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour Émilie, c'est Christelle de Manpower. Voilà, je voulais savoir si tu étais éventuellement disponible pour travailler jeudi.
Ça dépendrait des heures.
Trouver du personnel pour les restaurants et les hôtels, c'est le quotidien de Christelle depuis 15 ans avec son agence d'intérim à Liège. Mais depuis le Covid, elle galère.
C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. Sur 50 à 60 annonces, nous avons peut-être 2 à 3 personnes qui postulent par jour. On est devenus des chasseurs de tête. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait appel à beaucoup plus d'étudiants. Nous avons même 5 à 6 pensionnés qui travaillent pour nous.
Désolée, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible.
Et donc, on propose la mission, on leur demande de nous rappeler.
Veuillez laisser un message.
1, 2, qui rappelle.
Sur combien ?
Sur 200.
Retour chez Robert, vous vous souvenez, ce chef commis qui a décidé de tout arrêter, il nous explique.
Sur une journée, je tournais aux alentours de 100 couverts.
Tout seul ?
Seul, oui. Donc 13 heures par jour, sans pause. Hier, je suis tombé sur plusieurs camarades de classe. Pour faire simple, sur les 3, il n'y en a plus aucun qui est dans l'hôtellerie. Pendant le Covid, je me suis rendu compte que je revivais. J'ai commencé à manger avec ma compagne. J'avais une vie normale.
C'est quoi votre travail aujourd'hui ?
Je suis indépendant pour un opérateur téléphonique. C'est un peu le travail d'un délégué commercial, en fait.
Dans d'autres secteurs, c'était déjà habituel de courir après des informaticiens, par exemple.
François Pichot, professeur de management à l'Université de Liège.
Dans le secteur de la restauration, c'était moins le cas. Et la crise sanitaire a évidemment ceci de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, le secteur pleure après des candidats qui ont tendance à quitter le secteur pour toute une série de raisons objectives. L'insécurité d'emploi, c'était des emplois qui n'étaient pas assurés et qui étaient en plus payés au noir, donc l'absence de sécurité sociale, salaire précaire, les horaires pénibles.
Que je fais ?
Ouais, sans te cramer, s'il te plaît.
Je vais essayer.
Bien sûr.
En cuisine, Catherine, elle, s'est reconvertie depuis le Covid.
Chaud !
Elle cumule aujourd'hui 2 métiers.
Je suis indépendante complémentaire en coiffure.
À la DJ, ça, ouais. Ça va vite pour le temps de midi.
Ça va vite. Très vite, même. Je ne fais pas un temps plein, je fais un mi-temps, bien sûr. Je reste coiffeuse quand même de base et j'aime vraiment bien mon métier et j'aime bien les deux. Donc
Vous avez fait une formation ?
Non.
Qu'est-ce qu'on ajoute après comme garniture dans la béarnaise, les amis ? De l'estragon haché.
Au centre Horeca Format Wallonie, c'est le chef Frédéric d'Europe qui forme les futurs commis.
Clairement, il y a plein de gens qui se lancent dans l'Horeca, qui ont trouvé des emplois parce que les patrons cherchent et qu'on ne trouve pas. Et c'est pour ça que les patrons ont la bonne idée bien souvent de nous appeler et dire voilà, nous on a engagé quelqu'un, il a besoin de formation, qu'est-ce que tu me proposes ? Et ils nous les envoient et les patrons font une partie du travail en entreprise en nous disant ben voilà, tu fais comme ça, comme ça.
Allez Antoine, on speed un peu s'il te plaît.
Ah ouais.
Midi, hein.
Un des défis des restaurants, c'est aussi aujourd'hui de garder leurs collaborateurs. Et parmi les motivations, il y a évidemment le salaire. À 27 ans, Maxime est devenu demi-chef de partie.
Ici, au récent départ de mes précédents collègues qui ont démissionné il n'y a pas longtemps, j'ai été augmenté de statut et de rémunération.
Pour vous garder ?
Sûrement, oui. Bah, ils ont eu raison.
Les mentalités changent dans la restauration. En témoigne Loïc, la directrice de l'hôtel.
Le secteur est très mal vu aussi à ce niveau-là. Ici, non, on propose des contrats, des CDI, toute heure supplémentaire est payée, pas de noir, rien du tout, tout est déclaré.
En Belgique, des aides publiques à l'emploi existent pour le secteur. Ce sont les fameux flexi-jobs. Ils permettent d'engager dans la restauration un travailleur déjà occupé ailleurs. Mais le nombre d'heures est limité. François Pichot.
Les candidats, ils sont à la recherche d'une stabilité contractuelle, si possible en contrat à durée indéterminée. Et le flexi-job ne répond pas, évidemment, à ces nouvelles demande.
Qu'est-ce qui motive à travailler dans l'hôtellerie et la restauration ? L'agence wallonne de l'emploi a récemment sondé 600 demandeurs d'emploi. Outre le salaire, d'autres critères jouent. Anaïs travaille comme sous-chef dans un restaurant.
C'est un resto ouvert que le midi déjà, donc j'ai pas de service coupé. C'était un des critères en tout cas que je recherchais. Et 2 jours de congé d'affilée, et je fais des horaires presque de bureau. Quoi. Faut que je fasse un boulot qui m'épanouisse, mais il faut que j'ai une vie à côté aussi.
À la flexibilité horaire s'ajoute le critère de mobilité pour Catherine.
J'habite à Combray à 10 minutes.
C'est important d'habiter près aussi de son lieu de travail.
Oui, ça, oui, pour moi, oui, parce que j'ai 2 enfants et les amener à l'école et autres, c'est toujours beaucoup plus facile pour moi.
Même Loïc, avec son hôtel, a dû s'adapter.
On peut le dire, on est un peu tributaire de notre personnel, c'est certain. Donc on ferme quand même 48 heures d'affilée pour être sûr que bah, voilà, on ait le personnel qualifié, compétent aux heures où c'est vraiment important.
T'as congé ce soir ?
Ouais, c'est le seul service que je fais pas de la semaine. Chaque fois que je suis pas là vendredi soir, il y a des courriers. Des bêtises.
Pour nous, hôtel, c'est impensable. Fermer samedi, dimanche, mais on ferme quand même le dimanche soir, lundi toute la journée.
Salaire, mobilité, horaire. L'enquête révèle aussi que pour 9 travailleurs sur 10, la bienveillance et les valeurs humaines sont un critère essentiel.
Qu'est-ce qui pourrait les amener ?
L'ambiance de la cuisine.
L'ambiance de la cuisine, ouais, pour moi, c'est le plus important.
Ils sont très patients, ils sont vraiment sympas. Je les adore. Ils le savent bien.
Si on a la pression, je la bois, moi, la pression, madame.
Le chef de groupe reste optimiste.
Ils ont fait des études pour la plupart qui peuvent les amener dans d'autres professions, mais ils sont là. C'est un métier de passion. Et clairement, ils vont revenir.
En tout cas, après 10 ans, José reste amoureux du métier.
C'est ce que j'adore, c'est avec rien, on sait faire tout, c'est toujours plaisir. C'est la passion.
2 minutes, chef.
Le continent africain n'échappe pas à l'inflation, et plus particulièrement l'inflation alimentaire. C'est le cas en Côte d'Ivoire où nous partons maintenant. Depuis la crise sanitaire et avec les conséquences de la guerre en Ukraine, le pays voit les prix de certains produits exploser, mais aussi d'autres comme le blé se raréfier. Alors pour faire face à ces pénuries, des initiatives émergent mettant en valeur les produits locaux comme le manioc ou le mil. C'est un reportage de Binetta Diane.
C'est une petite boulangerie au cœur de la commune de Yopougon. 2 apprentis pétrissent le pain sous l'œil bienveillant de Louis Quadio, le responsable de cet établissement. Son produit phare, c'est la baguette.
Nous avons l'habitude de produire des pains ordinaires. Le pain ordinaire, c'est la baguette française. Il y a les pains, les petits pains de table, les pains bata et d'autres formes de pain.
Depuis 2020, Louis Quadio est touché de plein fouet par la crise du Covid et dernièrement par la guerre en Ukraine. Ces 2 crises ont créé des tensions sur le marché international. Les farines de blé ne sont pas livrées de manière régulière et surtout, les prix ont considérablement augmenté. Louis Quadio.
En vent, on achète le sac de la farine entre 17 000 francs et 19 000 francs. Et avec la crise ukrainienne, nous sommes aujourd'hui à 23 000 francs le sac de farine. C'est beaucoup trop, au point même qu'on voit même des boulangeries fermées chaque jour que Dieu fait, puisqu'ils n'arrivent pas vraiment à joindre les 2 bouts.
C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que pour vous, ce n'est pas assez rentable pour faire du pain, ça vous coûte beaucoup trop cher.
On n'arrive pas à s'en sortir. Pour faire du pain, nous avions la levure, l'améliorant, le sel, tout ça. Tout cela a connu une augmentation. Il est difficile pour nous de se retrouver. Nous avons des allérés de loyer parce qu'on n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Même payer le personnel, c'est tout un tas de problèmes.
Louis Quadio a eu un déclic. Ce jeune utilise désormais des céréales locales à base de manioc notamment pour réduire la dépendance à la farine de blé.
Nous sommes obligés de réduire un peu le coût du blé en incorporant la farine de manioc dans notre production. J'utilise la farine de maïs, j'utilise la farine de la banane plantain, j'utilise la farine de la patate douce voilà, pour faire du pain, pour faire même la viennoiserie.
Avec cette nouvelle méthode, est-ce que financièrement, vous vous en sortez ?
On arrive quand même à payer le personnel au moins.
Quel est l'avantage pour vous d'utiliser des farines ou en tout cas des intrants locaux dans la composition de votre pain ?
Je gagne en temps parce que en faisant le 100% blé, le temps de pétrissage est différent de quand tu fais un pain composé. Et dans les intrants, nous utilisons moins de levure. Au niveau de l'électricité, on gagne encore, parce que le temps de pétrissage est moins.
Au niveau de la corporation, cette pratique ne fait pas encore l'unanimité, car les habitudes sont encore difficiles à bousculer. Marius Abeille dirige la Fédération ivoirienne des boulangers. D'après ce responsable, c'est en fait toute une chaîne du producteur de céréales au meunier, en passant par les boulangers et les consommateurs, qu'il faudrait peu à peu réformer.
Il y a de l'engouement auprès des boulangers de Côte d'Ivoire. La difficulté pour eux, c'est de trouver la matière première afin de pouvoir réaliser les pains composés à base de farine.
C'est-à-dire la matière première, elle est là. Par exemple, le manioc est là, on le produit en grande quantité. Qu'est-ce qui pose problème?
Oui, le manioc est disponible en grande quantité, mais la farine de manioc n'est pas forcément disponible en grande quantité. Il faudrait que le politique s'implique pour qu'au niveau du monde agricole, il commence à avoir de grands champs de manioc destinés à la fabrication de farine à usage de panification.
Comment est-ce que les meuniers se sont adaptés à cette nouvelle méthode?
Nos meuniers traditionnels ne se sont pas encore adaptés. Ils sont toujours encore dans le classique, l'écrasement de la farine de blé. Il y a quelques initiatives solitaires, mais qui n'ont pas rencontré encore grande chance.
Nous sommes près du grand marché de la commune de Trècheville. Plusieurs camions roulent lentement dans les ruelles étroites de ce quartier commerçant. Des employés déchargent un camion de marchandises dans le local de Mohamed, un grossiste. Depuis 2 ans, Mohamed constate des tensions sur quasiment tous les produits alimentaires importés. Ce vendeur constate que la hausse des prix est notamment liée aux variations de la valeur du dollar.
On peut parler genre de 30 à 50% d'augmentation. Par exemple, le sac de farine était à 17 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Aujourd'hui, il est à 22 000 francs. On a fait un an ou un an et demi où le lait en poudre était un produit qui est rare au marché, qu'on ne trouve pas. Et les prix ont augmenté. Le carton de lait était à 8 000, aujourd'hui il est à 12 000, ainsi de suite. Le carton de pâte était à 6 000, aujourd'hui à 7 500. Et on estime qu'il y aura encore des augmentations. Au fur et à mesure qu'on avance, ça va encore augmenter, ça ne va pas diminuer.
Les autorités ivoiriennes ont décidé de plafonner le prix de plusieurs denrées pour éviter de répercuter ces hausses sur le consommateur, comme l'explique devant la presse le Premier ministre Patrick Hachi.
On a appelé les industriels, on a appelé tous les acteurs de la chaîne, de chacune de ces denrées de matière, on a discuté avec eux. On leur a discuté, la crise est grave, tout le monde doit faire un effort. On n'a pas d'autre choix que plafonner, les populations ne s'en sortiront pas. De 4, on est passé à 21 produits plafonnés. Nous avons atteint 2 objectifs. D'une part, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et contenir l'inflation à un peu plus de 6%.
Direction la commune d'Abobo, Rama Céréales est une petite entreprise créée en 2005. Cette usine, nichée sur une colline au nord d'Abidjan, fait le pari de transformer et de mettre en valeur les céréales locales des agriculteurs.
Ici, ce nous faut. Et chez nous, on produit beaucoup tout ce qui est céréales, c'est-à-dire le riz, le maïs, le sorgho, un peu de fonio, du mil également.
Fils de paysan, Yacouba Ouattara est originaire du nord de la Côte d'Ivoire.
J'ai vu un peu comment est-ce que nos parents souffraient vraiment pour pouvoir écouler les produits.
Yacouba Ouattara travaille chez Rama Céréales depuis 9 ans comme responsable commercial. Première étape, le stockage, puis le nettoyage de chaque céréale.
Tous ces sacs, c'est la matière première, surtout le mil. Vous avez aussi des sacs qui contiennent du maïs, du riz également. Nous avons essayé de mettre ensemble une centaine de producteurs dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Ferke.
Qu'est-ce que ces femmes sont en train de faire? Elles sont en train de nettoyer, c'est ça?
Le boulot ici, il est environ 90% manuel. Hein. Donc les femmes sont obligées de laver à la main l'eau dans une bassine avec des calebasses pour laquelle j'utilise pour pouvoir nettoyer le mil qu'elles ont reçu. Aujourd'hui, par exemple, elles doivent nettoyer 6 sacs de mil. Ça fait environ 600 kilos. Ça va prendre environ 1h30, 2h.
Une fois nettoyées, les céréales sont écrasées dans un moulin. La farine est ensuite tamisée. Les employés y ajoutent de l'eau pour obtenir une forme régulière de granulés, de mil ou de maïs. Des produits vendus en supermarché à Abidjan, mais aussi exportés et consommés par la diaspora ivoirienne, Yacouba Ouattara.
La diaspora, c'est quand même environ 30 à 35% de nos chiffres d'affaires.
Et comment expliquer cette attirance de la diaspora pour les produits locaux? C'est quoi? C'est une nostalgie?
Oui, certainement. Ça peut être guidé par la nostalgie. Et puis, bon, à côté, il faut dire qu'il y a les habitudes de consommation. C'est vraiment un plaisir pour nous de voir qu'ils contribuent aussi à la valorisation des produits locaux que nous avons ici.
Reste un défi à relever, introduire ces céréales locales dans les réflexes des consommateurs ivoiriens, surtout habitués aux produits importés. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
C'était Regards croisés, une émission des médias francophones publics, hébergée comme chaque année par Interception. Réalisation Charles de Silla, mixage Marie Lepeintre. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur le site de France Inter. Toute l'équipe d'Interception vous souhaite un très joyeux Noël.